pandemia.
Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
On bu de l'alcool et fumé du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on n'a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
On fascise la gangrène, on est libre ou on abandonne.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Hola, bienvenue à l'écoute de ce Canu Info du jeudi 21 juillet 2022. Nous sommes ensemble pour une petite heure, on sait pas bien, hein, d'information. C'est une émission spéciale, puisque nous allons parler des rencontres d'Arles. Donc nous allons parler photographie avec Laurent ce soir. En tout cas, on vous remercie. Hein, la semaine dernière, on pensait que le 14 juillet, nous étions peut-être avec vous 8, hein, dont deux dans les studios, puisqu'on s'était bien dit que vous étiez partis en week-end, que vous étiez à l'apéro, que peut-être vous étiez au travail, malheureusement. Tout ça, qu'on sait que vous êtes moins nombreux et nombreuses à nous écouter. En tout cas, vous nous avez écoutés aujourd'hui. Vous avez peut-être pu vous apercevoir qu'il y avait quelques petites coupures, difficultés musicales et peut-être quelques problèmes d'antenne. C'est des choses, hein, qui arrivent, voilà. C'est comme ça, c'est la technique. En tout cas, on espère que c'est réparé pour qu'on puisse vous faire cette émission que nous avons préparée avec amour, bien évidemment. Et ce soir, donc, nous allons vous parler, je vous le disais, des rencontres d'Arles et puis, voilà, de photographie. Arles, donc, c'est le festival qui se tiendra jusqu'au 25 septembre prochain. Donc, c'est un peu plus long que par il y a quelques années en arrière où ça se terminait un peu plus tôt. Donc, vous connaissez le principe, hein, de ce festival. Vous êtes dans Arles et vous vous baladez sur un certain nombre de lieux. Hein. C'est pas un seul et unique endroit dans lequel il y a des expositions, mais c'est plusieurs lieux qui accueillent des expositions autour de thématiques. Cette année, il y a un nouveau directeur. Hein. Ça fait plusieurs temps, hein, que la direction, voilà, a été bouleversée. On ne sait pas si celui-ci va rester. En tout cas, donc, une nouvelle proposition artistique et photographique qu'on peut retrouver donc dans cette petite ville du Sud, avec évidemment moins de lieux emblématiques qu'il y a 10 ans, hein, où on avait les friches des anciens ateliers SNCF, qui aujourd'hui ont été plutôt bien rénovés, il faut le dire quand même, mais qui ont été aussi récupérés, hein, par d'autres acteurs sur Arles. Donc, voilà. Alors, pour tout vous dire, on n'est pas complètement emballé par ce qui doit être la 53e édition de ce festival de photographie. Autant il y a des années, on va trouver une, voire deux, voire trois, voire quatre expositions qui vont vraiment nous faire rêver, nous faire pétiller au niveau des yeux, ouvrir le cerveau, avoir envie de débattre, de discuter. Et puis même des fois, il y a des choses qu'on n'aime pas du tout, et ça aussi, ça nous donne envie de débattre. Cette année, on doit dire que ces rencontres sont moins flamboyantes. Alors quand je dis flamboyantes, ça ne veut pas dire tape à l'œil. Hein, ça veut bien dire qu'on a moins trouvé, nous en tout cas, parce qu'on sait que tout le monde ne sera pas d'accord avec nous, de choses qui nous ont dit « Oh là là, c'est exceptionnel !» Alors, on va quand même vous raconter un peu des choses. Et c'est Laurent qui va ouvrir cette émission en nous parlant de Dakota Access Pipeline. On parlera des luttes amérindiennes, ce qui nous donnera l'occasion de parler d'autres sujets sur le Canada. Nous irons aussi du côté d'une expo, qu'on estime être ratée. Et puis nous parlerons de Lee Miller, hein, une photographe dont il y a une rétrospective, malheureusement peut-être un peu courte. Nous avons notre petit coup de cœur, en tout cas moi mon petit coup de cœur, autour d'une exposition qui s'appelle Snake. Et puis nous parlerons évidemment de cette exposition, une avant-garde féministe, photographie et performance des années 70, de la collection Verbond, hein, une collection viennoise. Et puis nous pourrons aussi discuter de cette exposition Un monde à guérir, 160 ans de photographie à travers les collections de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est ma foi malgré tout assez intéressante, même si elle n'est pas très bien présentée. Donc, est-ce que tu es prêt à débuter cette émission spéciale Rencontre d'Arles par une exposition qui est l'exposition gratuite en plein air dans le jardin d'été?
Voilà, alors je vais commencer par expliquer le sujet, parce qu'on va donner des infos sur ce sujet dont on a très peu parlé ici. On parle du Dakota Access Pipeline, il s'appelle aussi le Bakken Pipeline. Donc c'est un projet d'oléoduc long de plus de 1800 km aux États-Unis d'Amérique, bien évidemment, dans l'état de l'Illinois et surtout du Dakota du Nord, parce que c'est là où les mobilisations étaient les plus fortes, dans l'Iowa aussi d'ailleurs. Donc il est comme tous les pipelines qui passent dans la nature, il a un côté ultra controversé, notamment sur ses effets potentiels sur l'environnement. On va vous expliquer un peu le pourquoi ça a un effet sur l'environnement, un tuyau. Et puis après, il y a toute la problématique de est-ce qu'on doit transporter du gaz ou du pétrole à l'heure du réchauffement climatique et plutôt se tourner vers d'autres énergies, c'est une question plus globale. Donc un certain nombre d'Amérindiens de l'Iowa et surtout du Dakota du Nord se sont opposés donc à ce gazoduc, y compris les Fox et celle qui nous intéresse le plus, les nations tribales Sioux, donc qui ont invoqué le motif que l'installation d'abord menaçait leur terre sacrée, leur cimetière sacré, et surtout qu'ils avaient peur pour l'eau, puisqu'il y avait des risques de pollution d'eau. Alors ça a débuté en fait en août 2016, la mobilisation. Ça s'appelait Respect, avec un Z au lieu d'un S, Respect Our Water, donc respecter notre eau. Donc c'est un groupe qui s'est organisé dans la réserve indienne de Standing Rock, qui a présenté notamment une pétition alors au corps des ingénieurs de l'armée des États-Unis, parce que c'est ce truc, le corps des ingénieurs de l'armée des États-Unis, qui a été mandaté pour creuser et pour installer ce pipeline qui est géré par une entreprise privée, pourtant, hein. Donc les protestations ont eu lieu sur le site dans le Dakota du Nord, dans cette réserve de Standing Rock notamment, essentiellement portées par les Amérindiens, donc cette tribu Sioux. Alors pourquoi il y a des risques? Alors les pipelines représentent, on va dire même les oléoducs pour parler français, représentent une menace pour l'environnement et pour les gens qui habitent autour. Alors on a quelques infos qui sont données et qui vont vous expliquer en quoi c'est très très dangereux. C'est une structure qui s'appelle la Frack Tracker Alliance, qui détaille l'impact des oléoducs juste aux États-Unis d'Amérique. Alors il y a 2,7 millions de kilomètres de tuyaux comme ça qui transportent du pétrole, des hydrocarbures grosso modo et des liquides dangereux sur l'ensemble des États-Unis. Alors des fois ils sont longs de quelques kilomètres, des fois ils font des milliers de kilomètres, ça dépend leur rôle. Il y en a beaucoup qui sont à proximité d'habitations ou d'endroits qui revêtent une importance soit culturelle, soit écologique. Et il y a des fuites. Ils ont relevé, eux, 34 millions de gallons de fuites. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de 120 millions de litres, ou équivalent litre quand c'est des gaz, qui sont répandus dans la nature suite à des fuites ou à des problèmes techniques. Donc cette Frack Tracker Alliance a mené une étude entre 2018 et 2018 plutôt, donc sur à peu près un peu plus de 8 ans. Et leurs conclusions ont fait état de 5000 accidents aux États-Unis d'Amérique, 596 blessés, 196 morts directs, 29 000 évacuations, 808 incendies, 219 explosions et 4 millions de dommages. Hein, en 8 ans, sur l'ensemble des oléoducs aux États-Unis. Grosso modo, il y a 1,7 accident tous les jours, 9 personnes sont blessées tous les jours à cause d'un de ces tuyaux transportant des matières dangereuses ou des hydrocarbures. Alors ça, c'est pour dire, voilà, l'impact, il est important. Il y a des fuites tout le temps, il y a des problèmes. Et il y a des micro-fuites, notamment, qui ne sont pas réparées. Et là, la question de la ressource en eau, et c'est pour ça qu'ils se sont mobilisés, est importante. Parce que ces hydrocarbures vont aller polluer les eaux, notamment celles qui concernent les réserves indiennes, puisqu'ils ont fait passer ça, ils n'ont pas fait passer ça au milieu des villes, au milieu de New York, hein, bien évidemment, même si on n'est pas dans la même région. Ils ont fait passer ça dans les réserves indiennes ou à côté des réserves indiennes, hein, c'était plus facile, évidemment. Donc il y a une résistance qui a duré un peu plus de 4 ans, à partir de 2016, un gros mouvement. Il y a eu quelques échos dans la presse internationale à un petit moment, donc ce qui a fait parler un petit peu de tout ça. Ils ont fait non seulement des mobilisations individuelles au début, et puis surtout des mobilisations collectives, et ça a créé notamment pas mal de choses intéressantes en termes de collectifs sur les mobilisations dans ces communautés amérindiennes. Alors pour revenir un petit peu sur l'histoire, hein, en 2017, c'est la fin normalement de la construction, et le prestataire dit on va remplir en gaz, en hydrocarbures plutôt, le pipeline, ce fameux pipeline, malgré les mobilisations de 2016. En 2020, il y a un juge fédéral du district de Columbia qui s'appelle James Brasberg qui remet en question l'autorisation d'exploiter de l'oléoduc, mais il n'est pas allé jusqu'à fermer l'oléoduc. Il a estimé que le corps des ingénieurs des travaux publics de l'armée, donc qui avait creusé et fait tout ce projet et géré le projet, devait répondre des questions, notamment de fuite et d'impact sur l'environnement. Alors, il y a eu une réponse. La bataille pour juridique s'est donc arrêtée en janvier 2021, il y a un peu plus d'un an, lorsque la Cour d'appel des États-Unis a déclaré que ce fameux corps des ingénieurs de l'armée américaine avait violé les lois environnementales autour de la construction de cet oléoduc. Malheureusement, la justice a dû juste dire ça. Elle n'a pas appelé à la fermeture de l'oléoduc. Donc l'oléoduc a plus d'existence légale, mais il est exploité illégalement, sans permis, sans problème, puisque la justice n'a pas demandé sa fermeture. Mais c'est relativement logique, ce sont des Indiens, donc des Amérindiens pour être plus précis, qui sont concernés. Et la justice américaine, majoritairement blanche quand même, a du mal a donné raison aux Amérindiens. Là, elle a été poussée jusqu'au bout, ils ont été obligés d'avouer une partie des exactions et du non-respect des lois, mais ils ne sont pas allés plus loin. Alors, on en vient à Arles, et on va parler donc de Bruno Serralong. C'est lui qui fait cette expo autour de ces mobilisations et de cette lutte de ces Sioux, donc de cette tribu du Dakota du Nord, qui était donc directement concerné, et la réserve c'est Standing Rock. Donc lui, il décide de faire des montages photos. En fait, chaque fois il y a une grande photo, il y a à la fois un portrait et à la fois l'environnement autour. Donc des grands panneaux dans ce parc, donc c'est une des rares expos qui est, c'est peut-être la seule qui est accessible gratuitement, et on voit, il met en avant ces Amérindiens et Amérindiennes qui ont résisté, qui se sont organisés contre cet oléoduc. L'expo est très réussie, et surtout c'est une expo politique et écologique, ce qui est pas très courant à Arles. Donc il y a vraiment un truc intéressant en dessous de cette expo. C'est pour ça que je voulais en parler, parce qu'on parle assez peu de la cause amérindienne en Europe.
Oui, l'expo s'appelle Les Gardiens de l'eau. Hein, voilà, si vous voulez chercher. Oui. Et effectivement, elle est le mot parc est peut-être un peu
jardin.
Un petit peu, oui, voilà, c'est un petit jardin. C'est un des rares lieux au centre de Arles, voilà, avec un petit peu
d'herbe
et d'arbres. Alors, voilà, c'est une chouette expo, hein, vraiment, qui donne. Oui, ça a donné envie à Laurent de d'aller plus loin, de se pencher sur cette question. Les photos sont plutôt, c'est de la photo couleur, hein, grand format, donc c'est assez agréable de se balader. Et puis on a ces portraits d'hommes et de femmes qui fièrement parlent dans cette photo de leur lutte. Voilà, sans les mots, avec des banderoles, des t-shirts, des slogans. Ça raconte finalement assez bien ce qui se passe là-bas.
Ouais. Alors, je vais faire une info avant qu'on reparle des photos en lien avec les Amérindiens ou les communautés autochtones. Le vocabulaire est très différent d'un pays à l'autre. Hein. C'est assez marrant, assez fluctuant. Il y a une grosse progression sur le vocabulaire, hein, parce qu'au début, il y avait une forte présence du racisme, hein, des blancs. Alors, on dit des blancs, mais de tous les colons qui sont allés.
Les occidentaux,
Les occidentaux, voilà. Aujourd'hui, on parle des Amérindiens ou des autochtones pour prendre les mots qui ne sont pas racistes et qui les concernent. Et alors, on va retourner au Canada. J'en avais parlé plein de fois, mais là, j'ai lu un témoignage bouleversant. Donc, je voulais vous en faire part. Alors là, on va au Canada, juste au-dessus, tribu amérindienne aussi. Donc, on parle d'un pensionnat qui s'appelle Hermineskine dans l'Alberta. Et c'est Flora Northwest, 77 ans, qui raconte ce qu'elle a vécu dans ses pensionnats. Alors, elle commence par ses souvenirs. Alors, elle explique, je cite, « Ma famille, membre de la nation Cree de Samson, c'est le nom de sa tribu indienne, est installée dans... » Alors, ça s'appelle Cree, vous allez voir, on réutilisera le mot tout à l'heure. « Est installée dans la réserve des Premières Nations de Maskwakis, donc dans l'Alberta, depuis des générations, avant que ce soit une réserve, bien évidemment. » Elle est née, donc, elle dit, je suis née le 15 janvier 1945. J'ai quasiment aucun souvenir de mes premières années ici, si ce n'est de mon père et de mon grand-père qui me réveillaient tous les matins au son du tambour en priant dans notre langue, la langue qui s'appelle le cri des plaines. Lorsque j'ai eu 6 ans, un attelage de chevaux s'est arrêté devant chez moi à cause de la loi sur les Indiens. On venait alors me chercher pour m'emmener dans le pensionnat d'Hermineskine à une dizaine de kilomètres environ de chez nous. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne parlais pas un mot d'anglais et on m'interdisait de parler le cri, donc sa langue. C'était aussi la première fois que je voyais des blancs, des religieuses. Les religieuses étaient voilées en habit noir, les prêtres en soutane avec de grandes croix. J'ai eu peur parce que je ne savais pas qui ils étaient. Peut-être était-ce mon premier traumatisme d'ailleurs. On a aussi coupé mes longs cheveux qui m'arrivaient en bas du dos, retiré mes vêtements pour me mettre un uniforme. Certains de mes frères ont été scolarisés à Hermineskine aussi, mais je n'avais pas le droit de leur parler car c'était des garçons. Au sujet des maltraitances, des violences et des traumatismes, Flora précise, je cite, « J'ai vu tant d'élèves se faire battre et attacher par des professeurs. Cela m'est arrivé moi-même un certain nombre de fois. Les religieuses avaient des sortes de sangles avec un bord métallique, venant probablement d'une machine agricole, pour nous taper dessus, pour nous taper sur les doigts. Nous avons dû apprendre à tolérer la douleur. On nous traitait là-bas de sauvages, de païens, et nous finissions par le croire. Notre propre identité devenait confuse, parce qu'on nous coupait de notre histoire, de notre culture, de nos traditions, de nos cérémonies. Oui, ils ont essayé de tuer les Indiens en nous. Quand nous étions punis, parfois sans même que nous en comprenions la raison, car nous essayions pourtant d'être de bons enfants, nous étions envoyés au sous-sol, dans une sorte de cave à légumes. Nous l'appelions le donjon. Là, nous devions rester sans manger, à éplucher, nettoyer, trier des pommes de terre, que nous avalions parfois crues, tant nous avions faim. La nourriture était mauvaise, sauf quand des officiels venaient nous rendre visite, auquel cas nous avions droit à des plats un peu meilleurs. Mais c'était rare. Toute l'organisation était militaire. Dès l'âge de 5 ou 6 ans, nous devions travailler, éplucher les légumes, faire les lits, récurer les toilettes. Et lorsque c'était mal fait, nous devions tout recommencer. Il y avait une forme d'esclavage. Même si c'était bien sûr interdit, nous étions nombreux à pleurer avant de nous endormir dans nos lits. Et bien sûr, ça en est suivi des agressions sexuelles dont Flora témoigne difficilement. Je cite, « Je devais avoir 8 ou 9 ans. Il y avait ce prêtre qui nous appelait par petits groupes. Mes enfants !» Il parlait alors dans notre langue et essayait de nous rattraper, de nous attraper, de nous presser, en tenant par derrière nos corps contre lui. Je ne sais pas précisément jusqu'où il est allé. Parfois des flashs me reviennent. Cela déclenche un état de retour à l'enfance. Je sais que j'ai été abusé, que de nombreuses autres petites filles ont eu leur vie détruite à cause de ce pédophile, de ce prêtre pédophile. Aujourd'hui encore, je ne supporte pas d'avoir quelqu'un dans mon dos. Mon corps se débat mécaniquement, comme si la mémoire de ce traumatisme s'était imprimée en lui. Le prêtre est mort sans avoir jamais été jugé. » Ensuite, Flora quitte le pensionnat donc à 16 ans. Elle raconte la suite. Elle dit « Je suis devenue nounou dans une ville de dans une famille de la ville de Red Deer, à environ 80 km de Maswakis. J'étais payé $60 et j'en reversais la moitié à ma mère pour l'aider à subvenir aux besoins de mes frères et sœurs, mon père étant décédé en 1959. Puis j'ai eu mon premier fils en 66, je suis devenu mère célibataire. En 67, j'ai travaillé dans un institut spécialisé dans le soin aux personnes handicapées avant de devenir aide-soignante, une mission que j'ai beaucoup aimée, puis de rejoindre quelques années plus tard une usine de fabrication de meubles. Et forcément, les séquelles réapparaissent. Flora revient dessus. Au début des années 70, j'ai sombré peu à peu dans l'alcoolisme. Je n'avais à ce moment-là pas vraiment conscience que c'était intimement lié aux abus dont j'avais été victime. L'addiction, c'est un mal qui touche beaucoup de survivants. C'est le terme qu'elle utilise, un survivant. À cette époque, celui qui est devenu le père de mes trois enfants buvait aussi. Je pesais 90 kilos, j'hurlais toute la journée sur mes fils et ma fille pour qu'ils fassent leur lit, rangent leurs affaires, mettent la vaisselle dans l'évier. Finalement, je reproduisais le schéma d'autorité, le seul que j'avais connu, des religieuses qui criaient sur nous au pensionnat. La colère que je n'avais pu exprimer enfant, parce qu'elle était aussitôt réprimée, ressortait. Quand j'ai pris conscience de ce que j'étais en train de devenir, j'ai voulu arrêter. J'aurais pu perdre mes enfants si des services de protection de l'enfance étaient venus m'inspecter. Alors, le 17 février 1974, j'ai bu mon dernier verre et j'ai entamé lentement, mais sûrement, une thérapie pour sortir de cette dépendance. Mon compagnon n'a pas réussi à suivre et nous sommes séparés en 75. La libération de ma parole a pris du temps. Pendant longtemps, j'ai eu très peu confiance en moi. Et puis je suis intervenu dans des prisons, devant des détenus, dont un grand nombre d'abuseurs sexuels, pour leur dire ce que cela faisait d'être du côté des victimes. Tout cela m'a fait avancer, mais j'ai dû beaucoup travailler sur moi pour devenir la personne que je suis. Voilà. En 2013, Flora sera même auditionnée par la commission de vérité et de réconciliation, créée par les autorités pour faire la lumière sur les exactions commises par les religieux et les religieuses au sein de ces pensionnats. Elle explique la démarche. Chercher à regarder la vérité en face, comme l'a fait cette commission, est toujours important. À partir de 92, notamment, j'ai commencé ce que j'ai appelé mon périple vers la guérison. Pour mieux appréhender la mienne, j'ai commencé par étudier l'histoire des pensionnats. Je me suis plongé dans les archives, je me suis même physiquement retourné dans l'un d'eux. Mes places sont rouvertes, béantes, et je me suis senti envahi par une grande colère en mesurant toute la responsabilité du gouvernement dans ce système qui nous envoyait dans des établissements dont la gestion était déléguée aux églises catholiques mais aussi protestantes. Par là, les autorités ont cherché à nous contrôler, et cette colonisation a eu des effets dramatiques sur nombre d'entre nous. Cette commission a permis de le réaffirmer, de le faire entendre un peu plus. Devant elle, nous avons aussi pu dire combien nous refusions d'être assimilés. Nous sommes les premiers peuples ici au Canada, et nous n'allons pas abandonner nos droits au nom de quelque politique que ce soit. Alors voilà, alors le témoignage est beaucoup plus long, j'ai juste lu un petit peu le début, elle raconte un petit peu la suite. Il est fait parce que le pape des catholiques vient visiter le Canada cet été et que la question va revenir sur les responsabilités de l'église catholique, majoritairement, il y a aussi des protestants, sur l'enlèvement, la torture, les agressions qu'ont subi ces hommes et ces femmes parce qu'ils étaient amérindiens, issus des peuples autochtones. Voilà, c'est issu de La Croix qui peut des fois faire des articles intéressants aussi. Voilà, je voulais faire ça en lien avec cette belle expo d'Avignon.
Et nous allons la parole,
j'ai monopolisé un peu.
Poursuivre, puisque c'est toi encore qui voulais parler d'une expo ratée, rituel, inhabituel.
Ah oui, tu me l'as mis là. Oh, alors c'était oui. Toi qui m'as dit, pour revenir sur le truc, ce festival est beaucoup axé autour des femmes, donc des luttes en général, LGBT aussi, des choses, voilà, pas mal de choses dans les luttes, mais très peu de choses sur l'écologie.
Alors dans les luttes, on est surtout sur la représentation des luttes, alors pas tant des luttes dans la photo, mais en tout cas de la photographie qui a permis de faire avancer des sujets au niveau du social, c'est-à-dire effectivement on a eu une forte présence sur la photographie, sur les photographes et l'homosexualité, sur les mouvements queer, sur le mouvement MeToo, le féminisme, donc tout ça c'est des sujets qui a supporté le festival. Et par contre en termes d'écologie c'est très compliqué. Alors cette année on nous dit dans le festival on parle nature, mais parler nature c'est pas forcément parler d'écologie, c'est pas exactement la même chose. Et puis, alors, c'est vrai qu'il faut quand même le dire, Arles, c'est pas Perpignan, on n'est pas dans du photojournalisme, on est parfois, il y a du photojournalisme, mais on est aussi dans la photo d'art, pas que, il y a un certain mélange aussi qu'on trouve dans ces expositions. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on, moi je trouve que c'est quand même un sujet qui est laissé à la marge. En tout cas, c'est pas un sujet qui a fait une qui a été force de proposition tout au long d'une année de festival. Et c'est un sujet qui manque cruellement, parce que parler de la nature, c'est bien. Parler d'écologie, ben, c'est aussi un sujet qui est de 2022, qui était déjà en 2021, qui sera là en 2023. Et c'est peut-être un peu ce qui manque.
Ouais. Alors, il y a une. Alors, on a parlé de la lutte.
Il y a plusieurs.
Des Indiens avec l'eau, c'est de l'écologie, oui. Quelque part. Mais il y a une tentative super ratée, moi, je trouve. Parce que, bon, on rappelle, c'est pas du photojournalisme, donc c'est des photos d'art. Et des fois, ça rate complètement. Et c'est le cas d'une expo qui s'appelle Ritual Inhabitual, Forêt géométrique lutte en territoire mapuche. Donc là, moi, quand on voit le titre, on se dit, on va y aller, la lutte en territoire mapuche, voilà, c'est des luttes, les mapuches luttent aussi contre la colonisation, et ça parle de leur lieu de vie, leur forêt qui n'existe plus en tant que forêt naturelle, mais c'est remplacé par des monocultures de pins, d'eucalyptus, parce qu'il y a le capitalisme derrière, et on pourrait avoir une belle expo sur ce que c'est que ce capitalisme, etc. Et en fait, on a un truc artistique qui présente que quelques photos, qui ne parle de rien, qui ne montre rien, et qui finalement, à la fin, sert à rien. Donc ça c'est vraiment l'exemple d'un truc raté, quand l'art essaie de se réapproprier un truc, une lutte, et qu'elle n'en fait que de l'art, et que c'est tout vide dedans, et c'est cette expo qui est ratée à la chapelle Saint-Martin du Méjean. Bon, c'est un mauvais exemple, je voulais en parler juste pour dire que des fois ça rate.
Oui, mais ce qui est intéressant sur cette expo, c'est pourquoi on en parle, c'est parce qu'il y a tout un long texte explicatif qui est extrêmement passionnant. On a envie d'en savoir plus et les photos ne répondent pas à cette attente, donc c'est un petit peu dommage. Mais c'est vrai, je vous disais, on a des choses sur la nature. On a par exemple les photomontages de Seif Kousmat qui va nous parler des oasis marocaines, de la sécheresse. Mais on est sur du collage, sur du montage. Voilà, donc c'est un petit peu... c'est pas tant de la question d'aimer ou pas, hein. C'est une question que finalement ça apporte assez peu, cette question. On aura aussi les photos de je suis en train de chercher son nom, excusez-moi, Léa Bourdin, Image Forêt. Bon, voilà, ça encore une fois, on nous parle de nature mais on nous parle pas d'écologie. C'est un sujet qui est un peu à la marge. Alors moi je vais vous parler un peu du coup un peu plus de nature et d'écologie. On est en pleine sobriété ou décroissance, on sait plus bien. On se rappelle quand même que monsieur Macron il y a pas très longtemps finalement a traité les écologistes d'amiches. On s'en souvient de ça ? Mmh. Allez, on s'en souvient. Et puis maintenant, on nous explique, par la voix d'Olivier Véran, qu'il faudrait qu'on fasse des petits gestes. Hein, vous savez, là, on nous demande de teindre les prises électriques lorsqu'on part en vacances. Enfin, si t'as rien branché sur ta prise électrique, en même temps, on s'en fout un peu, hein. On peut lui expliquer ça aussi. Il faudrait couper le wifi, hein, et puis éteindre la lumière dans les pièces où on n'est pas. Alors bon, comment vous dire, c'est sûr que le climat, il dit merci à monsieur Véran et à monsieur Macron pour ces petites choses que nous on doit faire. Cette sobriété, alors c'est intéressant ce mot, hein, aussi sobriété qui apparaît à la place du mot décroissance. C'est deux notions qui sont, ma foi, très intéressantes. Toujours est-il que nous, il y a un truc qui nous avait un peu choqués. Même moi, ça m'a carrément énervé. Vous pouvez demander à Laurent si vous le croisez un jour. C'est les commerces qui laissent les portes ouvertes avec la climatisation à fond les ballons. Parce que le trottoir, il a besoin d'être rafraîchi. Donc, c'est toujours très important de laisser les portes ouvertes quand on tient un commerce. Alors, ça va du grand commerce, comme on a pu le voir, avec Décathlon sur la presqu'île dans Lyon 2e. Le Monoprix des terreaux, juste à côté de la place des terreaux, de l'hôtel de ville. Et puis tous les petits magasins qui font exactement la même chose, c'est-à-dire on ouvre les portes, parce que soi-disant, quand on a des portes ouvertes, ça fait rentrer le chaland. Parce que quand elles sont fermées, le chaland ne rentre pas pour consommer. C'est là bien un problème. On reviendra peut-être à cette question de décroissance et de sobriété dans la consommation aussi. Alors, on a le maire PS Jean-François Desbats de Bourg-en-Bresse, c'est dans l'Ain, qui a émis, c'était le 15 juillet dernier, un arrêté qui sanctionne les enseignes qui laissent la porte ouverte, justement, hein, avec un système de climatisation ou de chauffage d'hiver. Tout est prévu. Là aussi, ça sera la même idée. Il faut arrêter de laisser les portes ouverte. Et ben, du côté de Grégory Doucet et donc de la mairie de Lyon, un arrêté municipal du même ordre vient d'être donc signé. C'est plutôt une bonne chose. Il paraît qu'à Paris aussi, cet arrêté pourrait se mettre en place. Ce qui est dingue quand même, c'est qu'on en soit à prendre des arrêtés municipaux pour des choses, ouais, qui sont de l'ordre du basique.
C'est-à-dire que le capitalisme est tellement égoïste qu'il en a rien à faire de la planète et qu'il préfère ouvrir sa porte comme ça pour montrer, regardez, il fait frais chez nous, rentrez dedans, parce que quand on passe devant, on sent un léger air frais. Donc le capitalisme et les gens donc qui gèrent ces magasins, ils en ont rien à foutre des autres, ils sont égoïstes jusqu'au bout, ce qu'ils veulent c'est juste gagner de l'argent. Et ce qui nous paraît évident de fermer une fenêtre quand on climatise, fermer une porte quand on climatise, ça l'est pas pour ces gens-là.
Alors, je vais parler d'une autre idée de sobriété aussi. Ça se passe dans le Val d'Oise. Il y a 14 communes qui participent toutes ensemble à une grande expérimentation. C'est éteindre la lumière des rues la nuit. Alors la nuit, ça veut dire globalement entre 1h et 5h du matin. Je vous la fais un petit peu large. Ça fait que, bah, du coup, il y a une chose d'abord, c'est baisser la facture d'électricité, hein, des municipalités. Et puis surtout, diminuer la pollution lumineuse. Parce que vous savez, hein, on a tous et toutes vu ces fameuses photos prises du ciel où on ne voit plus que des taches de lumière. Là, c'est-à-dire que les villes ont pris une telle importance qu'elles sont allumées en permanence de partout la nuit, comme ça. Et que on a des taches de lumière quand on voit, hein, ces photos prises du ciel. Et ça cause des problèmes. Alors il paraît que ça nous cause à nous les êtres humains, mais ça en cause aussi aux animaux. Et puis évidemment, c'est une pollution, une dépense énergétique qui pourrait être largement réduite, hein, cette dépense. Surtout, on se parle en ce moment, hein, de réduction énergétique. Alors, tout de suite, vous allez me dire, oui, mais du coup, c'est pas un peu dangereux la nuit, hein? Alors, pour les expérimentations, hein, qui sont en cours, a priori, pour ce qu'on en sait, et pour ce qui est un petit peu quand même calculé, c'est qu'il n'y a pas plus d'agression la nuit avec des lumières éteintes que quand il y a la lumière allumée. C'est-à-dire que, en fait, les agresseurs, ils t'agressent quand même quand il y a la lumière. C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Hein, c'est pas parce qu'il fait nuit qu'il va t'agresser, hein, le gars qui veut te faire du mal, mais c'est bien, c'est pareil, il s'en fiche, il le ferait quand même. Alors, et puis, il y avait des questions là sur le quartier de la radio, moi je m'en souviens, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années peut-être, de dire si des gens voulaient qu'on allume plus une rue parce qu'il y avait un sentiment d'insécurité.
Et sur le jardin des plantes, il y a quelques lampadaires qui sont faiblement éclairés la nuit et quand on passe devant, ils s'allument beaucoup plus.
Et alors l'idée là, c'était même de pas tant éclairer parce que ces demandes qu'il y avait fait sous une mandature faisaient que la rue d'à côté voulait être aussi allumée très fortement. Parce que plus vous allumez une rue, plus celle d'à côté, elle fait sombre. Donc l'idée, c'était de retrouver aussi un niveau d'éclairage qui sera le plus bas possible pour que tu puisses rentrer chez toi tranquillement, sans te péter la gueule au bout du trottoir. Mais voilà, tranquillement, il faut savoir rebaisser la lumière, voire carrément peut-être un peu l'éteindre, et en tout cas éteindre une partie des lumières. Donc ça, c'est des expérimentations qui sont très intéressantes et qui permettraient de diminuer la pollution lumineuse. Et puis, je voulais parler, hein, de ce collectif des jardins joyeux. On est à Rouen, qui se bat depuis un petit moment pour préserver l'ancien foyer catholique qui a fermé en 2015. Il y a 4000 mètres carrés de jardins. Il y a un promoteur qui s'appelle Cédelka, qui a décidé de construire une résidence de luxe sur ce terrain. Et donc, on a des habitants et des habitantes, hein, qui font partie de ce collectif des Jardins Joyeux, qui se battent et qui ont lundi pris une petite claque, il faut quand même le dire, puisqu'il y a un gros machin de chantier qui est arrivé et qui s'est mis à abattre les arbres sur ce terrain. Alors évidemment, ça choque d'autant plus dans ces périodes de canicule où on a besoin de cette plante, on a besoin de cette verdure pour pouvoir rafraîchir nos villes. Et voir un promoteur qui veut faire du luxe à Rouen détruire les arbres, ça a fait du mal, hein, à ce collectif des Jardins Joyeux. Ça veut pas dire que la lutte elle continue pas, mais c'est vrai que c'est quand même une claque, hein. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des élus qui sont rentrés dans cette lutte aussi. Bon, on peut pas dire que le maire de Rouen il ait beaucoup participé à cette lutte, hein, puisque il y avait eu une installation, il y a eu une expulsion en janvier dernier qu'il a, on va peut-être pas dire soutenu, mais en tout cas il n'a pas vraiment empêché que les gens se fassent expulser. Là, lundi, les gens, hein, s'étaient assis au sol. Hein, personne n'a été arrêté a priori. Voilà, pour histoire de bloquer, hein, l'arrivée de ce machin de chantier pour arracher tous ces petits arbres. Voilà, c'est vraiment typique de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a Monsieur Macron et Monsieur Véran et tous les autres qui nous parlent de sobriété. Et puis en même temps... voilà, il y a des gens, encore le capitalisme qui vient saloper un terrain de 4000 m² pour y construire du luxe à la place de pouvoir sauvegarder un espace avec des arbres et qui était un espace assez intéressant au sein de la ville de Rouen.
Oui, alors on revient à Arles peut-être et on va parler de Lee Miller.
Alors Lee Miller, c'est une américaine, photographe.
Une expo de photos typiquement sur du patrimoine en fait là. C'est pas une artiste moderne, hein, c'est, il y a souvent ça et c'est toujours intéressant de revenir sur le sur une partie du patrimoine photographique
c'est
du XXe siècle, et c'est le cas de Lee Miller.
Et c'est le cas de cet espace Van Gogh qui accueille cette cette exposition. C'est tous les ans, hein, on a une exposition, une rétrospective archive dans cet espace Van Gogh. Alors Lee Miller, elle est née en 1907, elle est décédée en 1977. C'est pour vous situer un petit peu, hein, quand même, le parcours de cette photographe. Elle a été mannequin et puis elle se met à la photographie, et elle va beaucoup travailler pour les magazines comme Vogue. Elle va faire de la photographie de mode avec des prises de vue, hein, des publicités, des parfums, du cosmétique. Et tout ça est intéressant dans la première partie de cette exposition, puisqu'on a sa photographie brute. Et puis on a la photographie dans le magazine de Vogue, comme Vogue, et donc ça nous permet d'avoir un petit peu voilà, une idée de comment était exploité son travail. Donc ça c'est une, on découvre, hein, sa manière de faire du portrait à Lee Miller. Donc c'est intéressant, elle avait un studio de prise de vue à New York, hein, pendant plusieurs années. Voilà, donc elle fait tout ça. Et puis d'un seul coup, Lee Miller eh ben, elle va faire du photo-reportage, ce qu'on appelle, hein, du photojournalisme aujourd'hui. Elle va faire du photo-reportage de guerre. Et c'est la deuxième partie de cette exposition qui est, ma foi, beaucoup trop courte. Voilà, on aurait aimé découvrir plus, hein, de photos de son travail. Et c'est quelqu'un qui a fait ses photos de guerre qui sont d'une grande brutalité, puisqu'on va y découvrir des photos en format carré, différentes donc, hein, de son travail de photographe de mode, dans les camps en 45. Donc elle a été à Dachau et à Buchenwald entre 42 et 45, et donc elle va ramener ces photos, ces images qui sont absolument terribles à regarder, hein, je préfère vous le dire si vous y allez avec des plus jeunes. C'est pas simple à regarder. Elle va photographier les corps, les monts de corps de ces hommes morts dans ces camps. On a les visages, la bouche ouverte, voilà, la maigreur. Et elle va photographier tout ça, et grâce à elle, on a ce travail qui va arriver dans les magazines comme Vogue. Donc, elle a d'abord, voilà, ce premier travail à la Man Ray, comme Laurent me l'a très bien dit, mais d'ailleurs, elle a été collaboratrice, hein, de Man Ray.
Plus que ça, même.
Hein, elle a été, voilà, elle a travaillé avec lui, donc, hein, c'est aussi pour ça qu'on retrouve dans sa photographie de mode ce travail-là. Et puis ensuite, quand elle va fermer son studio, elle va partir et elle va voyager, et c'est là aussi où elle se met à faire après cette photographie. Nous, on vous recommande, hein, cette exposition, déjà parce qu'on se retrouve avec voilà, encore une fois, une chouette exposition d'archives sur cette photographie qui reste très moderne, hein, quand même, hein, même cette photographie de mode. Alors évidemment, les tenues sont vintage, hein, mais la photographie est très moderne. Et puis surtout, cette photographie de guerre qui, elle, est extraordinairement contemporaine, et avec des sujets extrêmement durs. Et en tant que femme, elle a, voilà, elle s'est imposée aussi dans ce milieu assez particulier de la photographie de guerre. Voilà, donc évidemment, hein, je vous laisse deviner que c'est du noir et blanc. Voilà, donc allez voir, hein, Lee Miller. Donc c'est à l'espace Van Gogh. Ça s'appelle Lee Miller, photographe professionnel. Voilà, deux parties de carrière, un peu courtes, ma foi, mais malgré tout très intéressantes. On pourrait vous parler d'autres... Allez, je vais vous parler de cette exposition qui s'appelle Snegg. Snegg, ça veut dire neige. C'est à croisière. Il s'appelle Klavdij Sluban. Hein, il est né à Paris, il travaille en France, mais il traverse le monde. Et cette exposition va nous parler de neige, mais elle va surtout nous montrer que c'est un photographe qui sait manier le noir. On a parfois envie d'aller toucher ses photographies parce qu'on se dit que ce noir, il doit être doux. C'est une sensation très particulière quand dans la peinture, dans la photographie, dans l'image d'une quelle qu'elle soit, on a cette impression de que la couleur nous envahit. Et là, c'est ce noir qui nous envahit. Il arrive à travailler cette profondeur, hein, du noir et de cette neige, donc de ce blanc, mais surtout de ce noir, c'est-à-dire d'avoir le contraste. Et puis, à travers ces photos, on a ce silence qui apparaît. Donc, une petite exposition avec très peu de lumière sur du bois. C'est vraiment très très bien mis en scène. Et puis c'est la neige qui va nous montrer. Il va aller en Slovénie, au Japon, il va en Estonie, en Chine, en Lettonie, en Finlande, en Mongolie, enfin, pour nous dire que finalement la neige, elle est là, de partout. Elle s'installe malgré son décor, et elle vient s'imposer au décor urbain quand c'est le cas, à la campagne. Enfin, la neige prend le dessus, elle s'installe, et pourtant il arrive à nous faire ressortir ce noir par rapport à cette neige et ce blanc, et c'est vraiment une très belle exposition. Ça a quelque chose d'un peu de nostalgie, vous voyez, ça nous rapproche un peu aussi cette idée-là, sur ce silence. Ça quelque chose, voilà, ces photos sont très très belles. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir cette exposition. C'est tout petit, vous verrez. C'est très rapide à faire, mais c'est toute beauté. Je sais pas ce que tu en penses.
Oui, très bon. J'ai trouvé ça vraiment très très beau. Les photos, elles sont d'une noirceur incroyable, malgré la neige.
Ouais.
C'est vraiment incroyable. Très belle expo.
Et puis on va terminer par des expositions qui sont extrêmement importantes, hein, au sein de ce festival des rencontres d'Arles. On va commencer par Un monde à guérir, c'est 160 ans de photographie à travers les collections de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. C'est au palais de l'archevêché, donc au centre de Arles, hein, sur la grande place face à la mairie. Alors c'est une exposition menée par deux commissaires, Nathalie Erschwander et Pascal Hofschmeid, désolé pour la prononciation. Nathalie, c'est une photographe qui n'a rien à voir avec l'humanitaire, et Pascal dirige, hein, cette collection qui n'en était pas une au départ, puisque c'est en fouillant dans les placards, hein, comme souvent ça peut se passer, de la Croix-Rouge, que l'on découvre qu'il y a des milliers de photographies qui ne servent à rien, qui ont pu servir à un moment, mais que bah, peut-être l'organisation peut peut-être en faire quelque chose et monter aussi une exposition sur cet archive de la photographie humanitaire. Alors, c'est une exposition qui n'est pas très lisible, parce que... Alors, c'est une volonté, mais nous, on ne la trouve pas lisible. C'est une volonté de séparer la photographie et le texte. Le problème, c'est vous savez, ça vous fait faire des allers-retours. Vous connaissez ce principe dans ces expositions où vous avez envie de savoir où ce visage a été pris, où cette photo a été prise, et vous faites des allers-retours entre le petit texte et la photographie. Et c'est là où, en fait, on s'aperçoit que la photographie, on a besoin du texte, alors qu'elle devrait... on devrait savoir l'apprécier en l'état. Mais... c'est aussi des photographies qui nous racontent quelque chose. Ce que cette exposition nous raconte, c'est d'abord que la Croix-Rouge s'est développée tout de suite avec la photographie. C'est-à-dire que son premier média de communication, ça n'a pas été le dessin, le croquis, la gravure, ça a été la photographie pour, évidemment, vous faire donner des sous. Hein, parce que l'idée, c'était d'avoir de la photo, de mettre des catalogues, de faire des publicités pour qu'on puisse avoir des donateurs et des donatrices qui soutiennent le travail humanitaire de la Croix-Rouge. Et donc, c'est ça que nous raconte cette exposition. Avec un petit esprit critique, hein, quand même aussi, pour nous rappeler que, par exemple, l'enfant, ça se vend bien, et que c'est quelque chose qui perdure aujourd'hui. Pour faire donner, il faut une tête d'enfant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est ce que nous racontent les commissaires, c'est que, si ça se trouve, au-delà de la photo qu'on nous montre, ou de la publicité qu'on nous montre, il y a une famille. Mais souvent, on nous montre un enfant seul, avec un petit regard, et c'est ça qui est souvent prenant. Ce que nous raconte aussi cette exposition, c'est qu'il y a d'abord eu un développement de la photo, comme je vous le disais, hein, c'est arrivé, la Croix-Rouge, elle se crée juste après la création de la photographie, une cinquantaine d'années après, et donc elle va se saisir de ce média, mais pas d'une manière d'abord institutionnelle. Ce sont les humanitaires, les personnes qui vont sur site, qui vont prendre des photos. D'abord, c'est un peu compliqué, parce que le matériel est compliqué et lourd, et puis après, il y a le matériel plus facile, un clic 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 qui fait que vraiment les gens sur place vont prendre plein de photos, les donner à la Croix-Rouge, mais surtout c'est aussi de l'ordre du souvenir, donc c'est quelque chose qui va se mettre en place, et puis ces photos vont être utilisées dans les publicités et la communication de la Croix-Rouge, parce que bah, du coup elles sont utiles, et ensuite la Croix-Rouge se rend compte que c'est pas suffisant, il faut aller plus loin, et c'est comme ça qu'elle va faire appel à des photographes professionnels, en particulier à l'agence Magnum, par exemple. Ouais. Alors on a Selgado, hein, dont vous avez parlé l'année dernière, ou dans d'autres expositions, pour d'autres expositions qui vont prendre des photos, et là le travail est plus du tout le même. D'abord parce qu'il va être calculé, efficace, il va répondre aussi à une commande, ce qui n'est pas le cas des humanitaires, qui répondaient à rien à part ramener des photos.
C'est comme témoigner ça. De ce qui se passait, en fait.
Hein, ouais, voilà. Et donc là, il y a une différence. Par exemple, il y a une des anecdotes qui est racontée par les commissaires, c'est qu'ils sont tombés sur un album photo d'un humanitaire qui devait être conducteur, et qui a collé ses petites photos, hein, vous savez. C'est encore une époque où on mettait dans des albums les photos qui étaient éditées, et qui passent d'un seul coup d'une photo d'un camp à un pique-nique. Mais parce qu'en fait, c'est son travail à lui. C'est juste qu'il a mis ses photos souvenirs dans un album et que c'était dans un ordre chronologique. Il les a collées comme ça parce que c'était comme ça. À un moment, il a été voir l'horreur, mais le lendemain, il a pique-niqué. Et donc, ce travail-là, il est intéressant, je trouve, à découvrir en termes d'archives. En termes de mise en scène, peut-être un peu moins, mais en tout cas, c'est plutôt assez intéressant aussi de comprendre comment cette photo humanitaire, elle se met et elle se crée.
Ouais, ils s'auto-analysent pas mal, hein, parce que ils s'auto-critiquent d'ailleurs. Ils, à des moments, ils disent voilà, bah, pour attirer le grand public, eh ben il fallait un enfant qui regarde l'objectif et qui avait l'air malheureux, toi.
Ouais.
Et donc ils ont, on travaille, enfin on connaît tous hein, l'impact que peuvent avoir les images, en positif ou en négatif, comment ça peut être manipulé, notamment, ben voilà, notamment dans ce cadre-là. Donc voilà, c'était intéressant d'avoir cette expo qui reparle un peu de l'utilisation de la photo. Et de ce qu'on peut en faire en dehors du témoignage, mais en tant qu'outil, outil de manipulation, hein, comme beaucoup de choses. Donc voilà, c'était très intéressant cette expo, assez incroyable.
Et puis on termine par l'exposition centrale, hein, à la Mécanique Générale. Je cherchais le nom de cet atelier.
Les anciens ateliers de mécanique, donc de la SNCF.
Alors qui s'appelle une avant-garde féministe. C'est très intéressant parce que là on se retrouve avec la collection Verbonne, donc à Vienne, qui va nous présenter une collection de photographies et de performances des années 70. Donc le féminisme, c'est pas nouveau.
Ouais.
Malheureusement, c'est encore là parce qu'on a encore besoin de se battre en tant que femme face à une société patriarcale. Et c'est déjà ce que racontent hein, ces photographes qui sont extrêmement nombreuses, puisque là il s'agit d'une de ces expositions qui ne s'attachent pas à une photographe.
Parce que c'est une, du coup, c'est que des femmes.
Là, c'est que des femmes. Je crois qu'il y en a, je ne me souviens plus.
Donc, c'est la même
71.
Voilà. C'est comme Lee Miller, hein, c'est une expo patrimoine. C'est-à-dire qu'on va montrer ce qui a pu se faire en termes de photos, mais en termes d'affiches, en termes de plein de choses, sur le féminisme dans les années 70.
Et donc, ce qui est intéressant dans ce travail, c'est qu'on va y découvrir le travail sur le corps hein, de ces femmes, qui sont aussi des plasticiennes, comment elles se mettent en scène, comme avec des portraits, souvent d'ailleurs elles se mettent en scène, hein, c'est ça aussi qui est intéressant, comment elles jugent comme la manière dont notre corps il doit être normé, comment parfois il est avilisé aussi, donc c'est un discours qu'on a eu beaucoup hein, sur les années 70. Donc c'est assez complet, c'est vraiment une belle exposition. Et puis surtout, on se retrouve avec des photographes pionnières hein, quand même aussi dans cette notion de lutte. Il s'agit pas simplement de faire de la photographie de femmes, il s'agit aussi de montrer le corps de la femme. Alors il y a une certaine... il y a la nudité évidemment qui apparaît, il y a le sang hein, entre les jambes, on a toutes ces notions qui font qu'aujourd'hui il y a des gens qui font encore ah quand ils voient ces photos parce que le corps de la femme bah des fois il est malmené parce que le sang et ben les gens ils font encore ah. Donc on a ce travail de noir et blanc qui est très très beau hein, sur beaucoup de photos aussi qui est très intéressante.
Vu que c'est les années 70, il y a quasiment que du noir et blanc forcément.
Ouais, et puis on y voit l'intimité aussi ouais, parce dans que, ces photos.
Ce que tu disais là sur le travail sur le corps, il y a, elles se mettent en scène pour dénoncer qu'on veut d'elles qu'elles soient des ménagères. Il y a, voilà, c'est pas clos hein, le débat parce que il y a les luttes féministes sont loin d'être terminées car loin d'être gagnées quand même. Mais donc il y a des choses qui nous parlent encore. Hein, donc elles dénoncent la position de la femme dans la société. Mais il y a aussi pas mal de choses sur la nudité et sur le corps parce que montrer son corps c'était un truc très important à l'époque sur le féminisme. Ça l'est un peu moins parce que maintenant il y a des féministes qui sont pudiques, qui ont perdu cette idée que le corps de la femme est un corps comme les autres et qu'il peut être montré si elles en ont envie. Et il y a une lutte forte hein, sur le corps, sur l'idée de ben voilà, je suis comme ça, j'ai le droit de me montrer. Et ça c'est vraiment très intéressant esthétiquement parce que la photo se prête très très bien à l'idée de vouloir montrer un corps ou de montrer des choses caricaturales. Voilà, ça fonctionne très bien en photo.
Alors moi j'ai retenu évidemment, il y a les noms hein, comme Birgit Jungensen par exemple, mais c'est pas la seule, mais c'est vrai que c'est compliqué pour nous là de vous raconter cette exposition parce que c'est des dizaines et dizaines de photos qui sont plutôt bien amenées. On a eu des fois sur ces grandes rétrospectives comme ça, on avait une ou deux photos d'un photographe ou d'une photographe et on était déçus de pas avoir plus. Là non, on a quand même la chance de pouvoir découvrir plus de photos d'un certain nombre d'entre elles, donc c'est plutôt bien. C'est un travail historique aussi hein, de rappeler que la lutte des femmes elle est pas d'aujourd'hui, qu'il y avait l'émancipation bien avant enfin voilà, c'est pas c'est générationnel, on doit toutes continuer à s'émanciper. Il y en a qui l'ont fait avant nous et il faudra encore continuer demain parce que comme tu le disais, c'est pas gagné. Mais voilà, on a parfois on rigole devant ces photos, parfois c'est assez, on est un petit mouvement de recul. Il y a toutes ces émotions qui arrivent dans cette émotion, dans cette exposition. Je trouve que c'est très intéressant aussi d'avoir une exposition avec autant d'émotions. Voilà, donc prenez votre temps pour aller à la Mécanique Générale, voir cette exposition.
Et il y a une intro qui est intéressante avec du texte et des événements marquants. Alors c'est un choix, ils n'ont pas mis tous les événements féministes et les luttes, les gains tout au long des années 70. Mais c'est intéressant, ça permet de se replonger et de voir ce qui a pu être gagné dans les années 70. C'est quand même un moment où il y a eu énormément de gains. On sortait des années 60 qui étaient des années d'exploitation de la femme. C'est là où s'est construit l'image de la femme ménagère. La femme juste mère de famille, voilà, on se rappelle hein, de ces images policées là, de la pub des années 60. Les années 70 ont quand même énormément cassé ce mythe-là, même si dans les faits et dans la vie de tous les jours, les femmes sont restées dans des rôles subalternes, dans une forme d'exploitation, notamment ménagère. Il y a eu quand même d'énormes progrès dans les années 70. Et l'expo montre bien ça. Alors même si c'est axé sur ce qui s'est passé en Allemagne, parce que forcément c'est une expo qui nous vient d'un musée de Vienne, une grosse structure de Vienne en Autriche. Enfin c'est la partie germanique on va dire. Donc c'est essentiellement sur cette partie du monde-là, mais elles ont fait des trucs incroyables.
Parce
qu'on
y voit aussi, par exemple, Orlan qui est très connu, le travail est extrêmement intéressant. Annette Messager, moi j'avais booké. Aussi, on pourrait parler de Mako Hidemitsu. Voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont des femmes, pas toutes, mais dans leur grande majorité, sont nées dans les années 40, et plutôt dans la deuxième partie des années 40. C'est-à-dire qu'elles sont encore jeunes sur les années 70, et donc on sent qu'il y a une génération qui est en train de se révolter, et c'est aussi ça que cette exposition nous raconte, et c'est assez passionnant, il faut le dire.
Ouais, c'est vraiment très réussi. Les expositions patrimoine comme ça, des fois, ça peut paraître rébarbatif, ça peut l'être, même d'ailleurs, celle-là, elle fonctionne très très bien.
Je vais finir, si tu veux bien.
Oui, mais
je vais vous conseiller un petit peu de lecture. Moi, ça me paraît bien de la lecture des fois un petit peu. Ce printemps-été 2022, c'est évidemment avec la revue 6 mois. Vous savez que j'aime beaucoup cette revue parce qu'on a du beau format. On a déjà un bel objet quand on le lit. Il faut mettre un coussin sur les genoux parce que sinon, c'est un peu lourd quand même. Qui va en Turquie, au pays des illusions perdues, nous parler de ce que fait Monsieur Erdogan avec un certain nombre donc de séries photos. C'est très très intéressant en termes de photos et en termes évidemment d'accompagnement au niveau du texte sur la Turquie, sur ce qui peut encore s'y passer aujourd'hui. Je vous le conseille vraiment, c'est vraiment très intéressant. Après c'est un numéro un peu aussi triste parce qu'on y parle de guerre, mais pas seulement, il y a d'autres parties sur ce numéro. Voilà, parfois, il faut savoir investir un petit peu dans ce genre d'objet, quitte à prêter, acheter en groupe, je sais pas, débrouillez-vous. Obligez vos bibliothèques à l'avoir, ça me paraît essentiel. Voilà, c'est toujours un bel objet. Et puis, j'avais envie de parler d'une autre revue que j'ai ramenée de Arles, qui s'appelle la revue Like, c'est la revue Tous les jours curieux. Donc là, c'est tous les deux mois. C'est un petit format, ce qui fait que ça se trimballe de partout. C'est un bel objet aussi.
Petit format, c'est pas tout petit, c'est format comics un peu.
Voilà, exactement, tu as trouvé le format, c'est un format comics qui nous raconte la vie des photographes, la vie des festivals, avec beaucoup d'interviews et puis des photos évidemment qui accompagnent ces interviews. Par exemple, il y a toute une interview des deux commissaires qui ont donc organisé Un monde à guérir, dont on vient juste de vous parler, l'exposition sur la Croix-Rouge. C'est très intéressant à lire avec la parole des photographes, la parole des commissaires, de ceux qui organisent aussi ces festivals. Donc moi je trouve ça plutôt chouette. Là par exemple il y a aussi toute une partie sur le festival Visa pour l'image. Si vous descendez par là-bas, ça vaut le coup quand même d'aller à Perpignan pour aussi ce grand festival de photos. Donc voilà, c'est un chouette petit magazine. Je devrais pas dire petit parce qu'on dit, il paraît qu'on dit toujours petit nous les Français. C'est un chouette magazine. Il y a toute une partie sur la musique là par exemple, sur des photographes d'hier et puis les photographes contemporains. Par exemple, moi j'ai découvert une belle interview d'un photographe qui s'appelle William Banyals, qui va aller faire des photos de jazzman, de musiciens, voilà aussi avec Simon Arcage, qui part à l'école du blues par exemple. C'est lui dont je voulais vous parler, Simon Arcage. Je vais chercher son nom, excusez-moi, j'ai tripatouillé les noms. Donc il va lui partir aux États-Unis d'Amérique et qui va avec un stage pour aller collecter et archiver la musique, rencontrer Ironing Board Sam et va le suivre, faire des photos de cet homme. Ils sont de deux générations extrêmement différentes et il va y avoir une complicité qui va se créer. Et donc Simon Arcage va raconter justement ce travail avec lui. Et puis je vous parlais donc de William Zaniel par exemple, qui lui a fait le grand BAM, voilà, aussi des photographies. Voilà, on rencontre plein de choses, on rencontre plein de gens dans cette petite revue. Voilà, c'est à découvrir et puis c'est à lire. Ça reste abordable, c'est 9,90€. C'est pas non plus donné, je vous l'accorde, mais ça se lit pas non plus en deux heures, donc ça se consomme doucement, la photographie aussi parfois.
Voilà. Donc voilà, c'était une émission d'info estivale autour du festival de la photographie de Arles. Alors, on n'a pas parlé de tout, on a vu plein d'autres choses qu'on a pas assez apprécié pour en parler.
Oh si, moi je veux dire quand même qu'à Monoprix, si vous aimez le monochrome, si vous êtes comme moi, vous aimez le monochrome, allez voir, il y a une exposition sur les nuages. Bon bah il y en a une partie où quand même un photographe s'est amusé à mettre un, vous savez, sur son bord de fenêtre
une feuille photosensible. Ouais.
Merci.
Enfin, une feuille du papier photo, donc photosensible à la lumière.
Voilà. Et donc tous les jours à midi, et quand il l'a retiré, c'était pas le même bleu.
Alors en fait, quand il développe, il doit développer au bleu. Il y a une technique pour avoir du bleu. Et en fait, le bleu est pas le même suivant la période de l'année où c'est exposé.
C'est,
au même endroit, le même temps.
Si vous aimez ce principe de la couleur du monochrome, et en plus si vous aimez le bleu en peinture, on connaît bien ce principe, c'est absolument magnifique. Moi je trouve ça top génial. Voilà, ça c'était mon idée personnelle de la chose. En fait voilà, des fois on arrive aussi quand même à s'émouvoir devant d'autres choses. Et puis il faut oser aller au musée départemental aussi d'Arles. Il y a deux expositions qui sont un peu petites à mon goût. Il y a beaucoup à lire. C'est pas inintéressant. Hein,
sur les États-Unis d'Amérique.
Voilà, c'est assez classique dans la forme. Tu as beaucoup aimé.
Beaucoup aimé. Ouais.
Moi, c'est juste que j'en avais marre, je crois. Voilà, donc il faut. On n'a pas parlé de Babette Mangold, hein, ce travail sur le mouvement et la danse. Si vous aimez la danse, il y a un travail aussi intéressant parce que c'est aussi les années 70 qui sont racontées dans cette exposition de Babette Mangold, où elle a été à la saisir le mouvement des danseurs et des danseuses, et puis elle a travaillé aussi sur cette mise en scène qu'on peut avoir dans le théâtre expérimental des années 70. Donc c'est une exposition où il faut peut-être avoir un petit peu un bagage pour la comprendre en entier, ou simplement apprécier la photographie noir et blanc. C'est des tout petits formats.
Ouais, moi j'ai...
Ouais. Et c'est vrai que...
J'ai pas été emballé moi, mais oui.
Ouais, voilà, il faut peut-être un peu s'accompagner... avant d'entrer dans cette exposition, ou en tout cas se poser des questions. On était très déçus par l'exposition de Suzanne Mezelas, qu'on adore pourtant, qui a fait des photographies absolument exceptionnelles, ouais, mais là c'est d'un intérêt
limité.
Voilà.
Voilà. Un festival comme ça, c'est intéressant. Il faut prendre le pass pour toutes les expos. C'est hors de prix hein, si on fait pas ça. Déjà que c'est pas donné.
Déjà c'est hors de prix le pass.
Déjà c'est hors de prix.
Pardon,
mais ça permet comme ça d'aller voir même des choses qu'on connaît pas ou qui donnent pas envie, parce qu'au pire, ben on reste 5 minutes. On s'en va et voilà, il y a des effets de surprise. Hein, on a fait des trucs un peu comme ça par hasard en passant devant, et là, c'est super bien, c'est une bonne idée. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans l'art et notamment dans la photographie artistique, parce que là, on est voilà, il peut y avoir des choses hyper expérimentales quand même.
Et puis, on vous rappelle que c'est aussi l'occasion de découvrir les découvertes, c'est-à-dire de jeunes photographes qui sont au début de leur carrière ou en tout cas qui n'ont pas encore eu le temps d'être très mis en avant. Il y a toujours cette série là, donc bah voilà, ça aussi c'est intéressant parce que ça permet, quand on s'intéresse à la photo, de pouvoir découvrir ceux et celles qui feront peut-être des belles carrières demain, en tout cas on leur souhaite, dans différents domaines, et puis aussi à travers le monde, parce que ces découvertes, elles nous emmènent un petit peu de partout à la découverte de gens qui sont en Inde par exemple, et qui ont qui peuvent proposer leur photographie à Arles, donc c'est vachement bien.
Et ben voilà, je crois qu'on a fait, on a fini notre émission annuelle sur le festival de photos de Arles. On va vous souhaiter de passer une bonne soirée. Radio Canyon refonctionne totalement, donc vous allez pouvoir continuer d'écouter les bandes continues et les émissions qui viennent derrière nous.
Et ben on se retrouve quand même la semaine prochaine, hein.
Oui, on va essayer.
Ouais, si on sera là. Merci à vous d'être à notre écoute comme d'habitude. On vous embrasse, on vous souhaite une bien belle soirée.
À bientôt.
Ciao.